Alors ce matin, j'aimerais qu'on prenne l'épître de Jacques et on va lire Jacques 1 et on va lire les versets 22 à 25. Jacques 1, verset 22, l'apôtre Jacques dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. J'ai lu l'histoire d'un homme qui habitait New York et qui est mort à 63 ans sans jamais avoir exercé un travail de sa vie. En fait, c'est quelqu'un qui faisait des études à l'université et il n'a jamais arrêté de faire des études. Il a passé des diplômes et des diplômes. À la fin, il finissait par connaître des cours par cœur. Et la raison, c'est que cet homme avait eu un parent qui était décédé et qui donc l'avait nommé dans son testament comme bénéficiaire d'une rente aussi longtemps qu'il faisait des études. Alors, il a bien compris les termes du contrat et il n'a pas arrêté. Il n'a pas arrêté. Et malheureusement, il a passé des milliers d'heures à écouter des professeurs, à lire des livres, à recevoir de l'enseignement, mais il n'a jamais fait, il n'a jamais pratiqué en fait ce qu'il avait appris. Je ne sais pas ce qu'il a appris, s'il avait fait des sciences politiques, il n'a jamais fait de politique. S'il a fait du journalisme, il n'a jamais écrit un article dans un journal. Bien sûr, ce n'est pas ce que Dieu souhaite pour nous, ses enfants, par rapport à sa parole. Et la Bible, ce n'est pas juste un livre de belles histoires qu'on écoute ou comme un roman, voilà, bon, ça fait du bien de s'y plonger de temps en temps, mais c'est un livre qui était très pratique, qui nous invite à l'action. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué le nombre d'impératifs qu'il y a dans les Écritures. Il n'est jamais dit « vous pourriez faire ceci, vous pourriez faire cela, ou bien ça serait bien que vous faites ça, bon, si vous en avez envie. » Il est dit plutôt « faites, aimez, cherchez, renoncez, soumettez-vous, travaillez, offrez-vous, accueillez, recherchez, abandonnez, priez, pardonnez, lisez, ne touchez pas, acceptez. » Et on pourrait continuer comme ça, avec tous les verbes. Et presque tous sont à l'impératif pour nous dire, mais c'est maintenant, il faut le faire maintenant. Donc Dieu veut qu'on soit actif et non passif. Et Jésus, c'est pas juste assis sur un rocher pour enseigner la foule, et puis enseigner encore. Et non, il est descendu aussi, et puis il a fait. Hein. C'est ce que dit la Bible. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Et donc l'enseignement, ce n'était pas juste pour remplir la tête, mais c'était pour mettre en pratique et faire. D'ailleurs, c'est intéressant parce que Jésus termine le sermon sur la montagne, donc qui dure 3 chapitres, mais certainement, il a dit beaucoup plus que cela, mais les évangiles nous rapportent 3 chapitres, en tout cas, de son discours. Et il termine son discours en disant « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, eh bien, il sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. » Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine, elle était grande. Et on voit bien ici Jésus qui relève l'importance de mettre en pratique, d'écouter, de recevoir et puis après d'agir, de mettre en pratique. C'est ça qui établit notre vie sur le roc ou qui établit notre vie sur le sable. Je ne sais pas si vous avez Priez pour moi ce week-end, si vous avez prié, merci beaucoup, je vous remercie. C'était vraiment béni. J'ai pu vraiment, je vous expliquerai un petit peu après dans les annonces, mais j'ai pu vraiment prêcher l'évangile. Beaucoup de gens étaient touchés par la parole de Dieu. Mais ce n'est pas le tout d'être touché. Je me demande, mais qui a retenu quelque chose aujourd'hui? Qui s'en souvient encore? J'espère, je prie pour ça. Mais toucher, c'est une chose, et mettre en pratique, c'en est une autre. Seigneur dit, juste après son serment, vous avez entendu, et bien maintenant, mettez en pratique. Et donc Dieu nous demande de faire, d'agir, d'obéir. Ailleurs, nous lisons, c'était le verset qui était derrière moi tout à l'heure, « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. » Et quand on est chrétien, normalement, on ne devrait pas juste être auditeur et spectateur, mais on devrait être acteur. Donc, pas attendre que les autres agissent, mais plutôt, c'est à nous que Dieu parle, il faut qu'on en prenne conscience, et c'est de nous que Dieu attend quelque chose. Et donc, c'est à nous de réfléchir sur nous-mêmes, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Qu'est-ce que je vais faire? Ailleurs, Dieu dit, encore par Jacques, donc c'est ce que nous avons lu, nous pouvons nous borner simplement à écouter. Et on peut écouter et lire plein de choses. Et finalement, ça ne change rien. On peut entendre un bon message, on peut lire une bonne chose. Mais parfois, c'est valable pour moi aussi, hein, ça me le remet en question aussi, mais parfois on entend une bonne chose et puis on se dit, oh tiens, ça c'est bien pour un tel. Oh, j'espère que lui il aura entendu. Hein. J'espère qu'elle elle a bien compris ce qu'il est en train de dire. Hein. Et finalement, on est en train de le mettre pour les autres et Dieu veut qu'on soit concentré sur soi. Qu'est-ce que Dieu est en train de me dire à moi, personnellement? C'est ça qui est important. On peut avoir tendance à n'être que des auditeurs, hein, des spectateurs, hein, alors qu'un acteur, c'est quelqu'un qui bouge, hein, acte, hein, qui agit, en fait. Hein. Kimberly, un jour, elle s'en souvient plus, probablement, mais elle avait fait remarquer, c'est curieux en France de voir certainement, il y en a des très bons, hein, mais les ouvriers dans le BTP qui font une route. Parce qu'il y en a deux qui creusent et il y en a quatre ou cinq qui sont en train de regarder. Et ça dure comme ça. Et c'est ça, hein. Certains agissent et puis d'autres regardent simplement en spectateur. Et c'est bien sûr pas ce que Dieu veut pour ses enfants. Il souhaite qu'on soit vraiment en mouvement, agissant. Alors il nous dit, mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Et on peut avoir des faux raisonnements. Parfois on se dit, c'est vrai ce que j'entends, il faudrait que je change cela ou que je fasse cela, puisque Dieu me demande, il faut que je le fasse. Et puis les pensées tournent, les heures tournent. Et puis les jours passent, et finalement, eh bien, on ne fait rien, on ne bouge pas. Sur le coup, on s'est dit il faut, et puis après, eh bien, ça passe, et on renonce à agir. On renonce à faire ce qu'on devait faire, on renonce à dire ce qu'on devait dire, on renonce à parler, on renonce à bouger, on renonce à changer. Et on va se tromper avec des faux raisonnements. Par exemple, on peut se dire, on lit ou on écoute et on se dit « Ah mais ce passage-là, il n'est pas pour moi, moi je ne suis pas concerné. » Donc c'est pour quelqu'un d'autre ou pour les autres. Ou par exemple, on va se dire « Ah ben c'était pour les Juifs, mais moi je ne suis pas concerné, non, pas pour moi. » Et hop, ça va être rangé dans une case et on n'y pense plus. Pourtant Dieu a parlé, il a dit quelque chose, mais on a un faux raisonnement. Et on va perdre, en fait, ce que la parole de Dieu dit. Un autre faux raisonnement, on va se dire, oui, c'est vrai, Dieu dit ça dans la Bible, c'est vrai, il l'ordonne, c'est bon, mais ce n'est pas obligatoire dans mon cas, moi. Ça veut dire que moi, je suis une exception, en fait. Hein. C'est valable pour certains, mais pas pour moi. Et c'est vrai que Dieu ne veut pas qu'on soit des robots. Il n'a pas fait des robots qui agissent tous de la même manière. Hein. Ça, c'est clair. il y a ce qu'on appelle la liberté chrétienne. On a une liberté en Christ et on n'est pas destiné à faire tous exactement la même chose de la même manière. Mais on peut aussi facilement se trouver des excuses pour ne pas obéir à ce que l'on sait que le Seigneur nous dit. Et alors on va se dire, c'est pas valable pour moi. Mais c'est pas à moi de déterminer s'il y a une exception pour moi. Mais c'est à Dieu. Hein? Dieu peut dire, non, j'ai prévu autre chose. Mais si c'est moi qui dis, ah ben non, c'est pas valable pour moi, c'est pas la même chose que si c'est Dieu qui dit, mais non, fais ça. Quand le Seigneur a appelé Moïse, Moïse a répondu, « J'ai la bouche et la langue embarrassées, Seigneur. Je ne peux pas parler. » Se trouver une excuse, en fait, pour ne pas faire ce que Dieu était en train de lui dire. Et on peut se trouver des excuses aussi, hein, pour essayer d'esquiver, finalement, ce que Dieu est en train de nous dire. Un autre raisonnement. « Je mettrai en pratique plus tard, Seigneur. Je mettrai en pratique demain, ou après-demain, ou le mois prochain. » Ou à la nouvelle année, hein, quand on reprend une année. Voilà. Et on repousse, et finalement on repousse pour ne pas mettre en pratique maintenant. Vous savez ce que dit le Seigneur, hein, celui qui met la main à la charrue, qui regarde en arrière, hein, n'est pas propre au royaume de Dieu. Et c'est un peu ça. Hein. Pourquoi on va repousser à demain? J'ai lu un proverbe espagnol qui disait, si je me souviens bien, qui disait « La route de demain mène au pays de nulle part. » Ou au pays de jamais. Et Dieu ne veut pas qu'on dise demain, Seigneur, demain. C'est un faux raisonnement pour nous empêcher de faire aujourd'hui ce qu'il nous demande. Et puis demain, eh bien, on n'y pensera pas. Et puis, on aura oublié. Jacques, versets 23-24, il dit, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Et Dieu nous montre notre visage naturel dans la parole. C'est comme un miroir dans lequel on se voit, un miroir qui va nous montrer nos défauts, qui va nous montrer nos péchés, qui va nous montrer tout ce que l'on est. Tout est mis en relief quand on regarde dans la parole. Dieu pointe le doigt sur ce qui ne va pas dans notre vie. Vous savez, certaines personnes, elles vont être très sensibles à leur apparence au niveau du visage, c'est normal aussi, hein, on a envie de se présenter comme il faut. Mais du coup, eh bien, devant le miroir, on va essayer de cacher, hein, si on a un peu de rides ou un bouton, on va mettre un peu de fond de teint, quelque chose pour le cacher. Et Dieu veut qu'on emploie la parole aussi pour changer quelque chose. Mais pas pour maquiller et cacher, mais pour confesser, reconnaître. On se regarde, on voit, on reconnaît, on demande pardon. Et on dit, Seigneur, ben, change-moi, délivre-moi, viens-moi en aide, secours-moi, change mon âme. Vois comme je suis, je veux changer, s'il te plaît. Et on peut dire que notre vieil homme, l'homme naturel, ce qui est en nous et qui est mauvais, s'est mis à nu devant la parole de Dieu. On est d'un seul coup nu devant Dieu. Et quand notre vieil homme est mis à nu, eh bien, il n'est pas beau. Nous ne sommes pas beaux. L'homme naturel, il est corrompu. L'homme naturel, il glisse dans tous les excès. C'est lui qui est égoïste. C'est lui qui est orgueilleux. C'est lui qui est dur ou insensible. C'est l'homme naturel qui est infidèle ou tordu. C'est lui qui convoite. C'est lui qui est double. C'est lui qui ne pardonne pas. Et on peut continuer comme ça à la liste. Tout notre péché se retrouve concentré dans cet homme naturel que la Bible appelle aussi la chair. On dit c'est la chair. C'est la même chose. Tandis qu'au contraire, quand on vient à Jésus-Christ et qu'on accepte Jésus-Christ, Dieu va nous donner une nouvelle nature. Il y a une nouvelle nature qui entre en nous, c'est ce qu'on appelle l'homme régénéré. Et lui, cet homme régénéré, il ne pêche pas. Et c'est vraiment l'homme qui marche avec Dieu, qui est en communion avec Dieu, qui vit pour Dieu, qui aime Dieu. C'est la nouvelle nature. Mais la Bible, quand on la lit, elle va pointer le doigt sur l'homme naturel, sur ce vieil homme, sur la chair qui est en nous. Et c'est un petit peu comme une lampe halogène. Vous savez, vous rentrez dans des appartements qui sont très bien peints en blanc, etc. Ça vous paraît impeccable. Et puis vous allumez une lampe à halogène sur le soir, et là vous voyez tous les défauts. Vous voyez toutes les irrégularités, le ponçage qui n'a pas été fait, enfin tout devient fou. C'est un peu pareil. La parole de Dieu, c'est une lumière. Et quand on commence à la lire, à s'y plonger, à écouter, eh bien hop, ça met en relief tout ce qui ne va pas en nous. Et là, il faut changer. Et changer en se repentant, et en demandant au Seigneur, viens voir en mer. Il est dit que la Bible, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Il est dit que c'est là que l'on voit que nulle créature n'est cachée, mais que tout est nu et découvert devant celui à qui nous devons rendre compte. On se voit tel que l'on est devant Dieu. Confesser et obéir. Verset 25, Jacques, il dit « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » J'ai une Bible, on l'appelle la Bible Scofield, parce que Scofield, c'était un théologien qui a fait des commentaires. Et ce théologien, donc, a dit, il a dit qu'à Londres, il y avait trois sortes de chiens, donc à son époque, hein, ça remonte quand même. Hein. Il dit, il y a le chien sauvage, donc il est sans maître, il erre dans les rues, à droite, à gauche, il vole sa nourriture dans les poubelles, et souvent, ben, il termine sa gloire dans un caniveau mort. Ensuite, il y a un deuxième chien, c'est le chien enchaîné, à qui on ne peut avoir confiance qu'à une certaine distance, hein, pour ne pas se faire mordre. Et puis, il y a le chien, troisièmement, qui connaît et qui aime son maître. Il écoute la voix de son maître et il obéit à son maître. Et celui-là, il n'a pas besoin de l'aide parce qu'il obéit à son maître. Donc, le premier chien, il a la liberté, mais il n'a pas la loi. Le deuxième chien, il a la loi, mais il n'a pas la liberté. Et le troisième chien, il a la loi parfaite de la liberté. Il est libre et il est attaché aussi à son être. Et on peut dire que les hommes, tous les hommes, ils ressemblent à ces trois animaux, trois chiens, trois types. Il y a la masse des gens qui rejettent l'autorité de Dieu, qui se croient libres, mais qui est complètement asservi à ses péchés, complètement asservi à ses passions, à tout ce qu'ils ont envie de faire. Et chacun fait moralement ce qui lui plaît, c'est-à-dire avec sa propre morale à lui, à eux. Ensuite, deuxièmement, il y a beaucoup d'hommes qui sont comme ce chien enchaîné. Ils ont plein de lois, plein de règles, des choses pour eux, c'est sécurisant. Hein. Il y a plein de gens dans le domaine religieux qui sont très légalistes avec eux-mêmes. Plein de faut pas faire ci, faut pas faire ça, ou bien il faut faire ça autant de fois par jour. Un petit peu comme les pharisiens dans la Bible. Donc il y en avait des milliers, des pharisiens. Donc c'était une secte juive en fait. Hein. Et ils ne connaissaient pas la justice de Dieu et ils cherchaient à établir leur propre justice en ne se soumettant pas à la justice de Dieu. Donc voilà, ils s'étaient fait leurs propres règles plutôt que de se soumettre simplement à Dieu. Et pas de liberté. Et puis enfin, ce troisième type, où ça c'est les chrétiens finalement, qui a accepté Jésus-Christ, qui le reconnaît comme son Seigneur, comme son Sauveur, il n'a plus besoin de l'aise, il n'a pas besoin d'être retenu, hein. Simplement, il suit son maître, il obéit à sa voix, et il est libre, libre en Jésus-Christ. Et ça, c'est ce que Dieu souhaite pour chacun d'entre nous. Qu'on soit sous cette loi de liberté, qu'on soit libre en marchant avec lui, simplement. Et on est heureux, on est heureux. Souvent, on se dit, la Bible, mais c'est une liste de règles astreignantes, et il ne faut plus que je fasse ça, il ne faut plus que je fasse ça. Mais en fait, le Seigneur ne veut pas nous rendre prisonniers toutes ces règles d'une manière légaliste, mais il veut nous permettre de le rencontrer, d'avoir une communion avec lui. Et à ce moment-là, mais c'est lui qui met sa loi dans notre cœur. Il dit, il produira en vous le vouloir et le faire. Donc, d'un seul coup, j'ai plus envie de faire ça. Mais j'ai envie de faire ça.
Je suis changé, transformé.
C'est ça, connaître Jésus-Christ nous donne envie de faire ce qui est bien et nous donne envie de renoncer à ce qui est mauvais dans notre vie. C'est la vraie relation, ça. La vraie communion avec le Seigneur. Et ça, c'est la liberté. C'est la liberté. On ne le fait pas par obligation, on le fait naturellement parce qu'on aime le Seigneur. Parfois, on peut envier quelqu'un. On regarde un chrétien, on se dit, oh ben lui, il a l'air vraiment libre et heureux. Voilà, il est joyeux, et moi je suis retenu encore, faible, tombant dans ce péché ou tel autre péché. Et j'aimerais juste dire une chose, c'est qu'on ne se libère pas de soi en 5 minutes, ou en un mois, ou même en un an. On ne se libère pas de soi-même facilement et du vieil homme qui veut nous dominer sans cesse. Jacques dit, celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux, heureux dans son activité. Et la liberté en Christ, c'est pas quelque chose qui vient rapidement, mais c'est une affaire de persévérance. On met en pratique, et on met encore en pratique, et on entend et on se soumet encore, et on persévère jour après jour. Persévérer, c'est le contraire d'un serviteur oublieux. J'ai lu une chose intéressante sur le roi Édouard VI, roi d'Angleterre, au XVIe siècle. Et il est dit de lui qu'il assistait, quand il allait au culte, il se levait quand il entendait la parole de Dieu qui était lue. Il prenait des notes alors qu'il était dans le culte et qu'il entendait. Ensuite, il étudiait ses notes avec attention. Et durant la semaine, il essayait de mettre en pratique ce qu'il avait entendu. C'est touchant, hein, un roi, d'être comme ça, sensible à la parole de Dieu. Jésus nous raconte l'histoire d'un semeur qui sortit pour semer. Vous connaissez beaucoup ce passage. Donc le semeur jette sa semence, il avance comme ça, il met sa main dans son sac, hein, et la semence tombe d'abord le long du chemin. Les oiseaux viennent et commencent à manger la semence. Une autre partie de la semence tombe dans des endroits pierreux. Alors, eh bien, elle commence à pousser, elle lève aussitôt, mais comme il n'y a pas de racine, elle sèche et elle meurt. Une autre partie tombe dans les épines. Les épines croissent, montent et finissent par étouffer la semence. Et puis, une autre partie, bien sûr, tombe dans de la bonne terre. Et là, elle germe, elle pousse et elle donne beaucoup de fruits. Jésus raconte dans Matthieu 13 que la semence, c'est la parole de Dieu. Celui qui sème, mais c'est Dieu, hein, c'est Dieu lui-même qui sème sa parole. Et les sols, les types de sols, c'est les différents cœurs des hommes. Et on peut se poser la question pour nous-mêmes, mais quel est mon cœur aujourd'hui? Quel est le type de cœur que j'ai? Le premier cœur, il est dur, dur comme comme le chemin, hein, celui où on marche. La semence, elle tombe dessus, mais elle ne peut pas du tout pénétrer. Alors, eh bien, les oiseaux viennent. Et dans ce passage de Matthieu 13, on voit les oiseaux, c'est le malin. Donc, c'est le diable, hein, qui vient prendre la parole qui est dans notre cœur. Et parfois, notre cœur est dur. Et alors, la semence, elle tombe sur notre cœur, mais elle ne pénètre pas. Et le malin a vite fait de changer nos pensées, nous éloigner de ce qu'on a entendu et qu'on n'y pense plus. Il ravit la parole dans notre cœur. Parfois, c'est nous-mêmes. On a un cœur qui est dur comme ça. Pour le deuxième cœur, Jésus dit qu'il n'a pas beaucoup de racines en lui-même. Donc, il manque de persistance, il manque de persévérance. Dès que survient une épreuve, dit la parole, ben, il abandonne, il délaisse. Et c'est vrai qu'il peut y avoir aussi un enthousiasme, mais qui est éphémère. On prend la parole avec joie. J'ai des personnes qui sont venues me voir vendredi. Oh, c'était très bien. Et on se demande ce qui va se passer après, s'il va y avoir vraiment quelque chose. Et c'est la mise en pratique avec la persévérance qui paye. C'est ça qui va porter du fruit. J'entends, je mets en pratique, je persévère. Là, ça germe vraiment et ça porte du fruit. Quand
J'ai souvent l'habitude d'encourager ceux qui avancent dans la vie chrétienne à lire Andrew Murray, le livre « Demeurer en Christ », parce que c'est un livre qui m'a vraiment touché moi aussi. Mais c'est un bon livre qui explique finalement comment un chrétien doit être un sarment qui est lié, attaché à son cep. Et le cep laisse passer la sève dans le sarment et peut grandir et porter du fruit. Et c'est intéressant dans ce livre parce que dès le début, dès la préface ou le premier chapitre, Andrew Murray explique que ça prend du temps. On ne devient pas un sarment attaché au cep et la sève coule dans le sarment très vite. Ça prend toujours du temps. La relation avec Dieu, la communion avec Dieu, quelque chose qui se développe et il faut du temps. Il n'y a rien à faire, on ne va pas pouvoir brûler les étapes. Alors, c'est intéressant parce qu'il dit, attention, soyez patients. Dès le début, soyez patients. La délivrance du péché, la victoire sur l'homme naturel est une affaire de temps. C'est un processus qui prend un certain temps. Et c'est intéressant, hein? Il faut qu'on retienne ça et que ça nous encourage en disant peut-être qu'aujourd'hui ça ne va pas, mais je persévère et je vais encore persévérer. Et petit à petit, comme des branches mortes qui tombent d'un arbre, elles sont là encore, on les voit sur l'arbre. L'arbre est bien vivant, hein? Mais la branche finit par se casser. Et puis une autre branche va pousser à la place. Pour le troisième cœur, Jésus dit que les épines, qui sont les soucis du siècle présent et les séductions des richesses, étouffent la semence. Et le contraire d'un auditeur qui est oublieux, c'est un auditeur qui est attentif. Et c'est vrai que quand on a des soucis, quand on a des souffrances, quand on vit des choses qui sont difficiles, c'est difficile d'être attentif. Parce que on porte un fardeau et voilà, le fardeau nous accable tellement qu'on n'arrive plus à être attentif. Et même, on peut lire la Bible et sans lire. On lit, mais en fait, notre cœur est ailleurs. Mais c'est pour ça aussi que Jésus dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Hein. Le Seigneur le demande. Et puis après, mettez en pratique la parole. C'est mon père qui me disait que parfois... il avait entendu quelque part, il avait tellement de choses à faire dans sa journée, c'est vrai qu'on se dit, ah ben j'ai ça à faire, et ça, et ça, et ça, et du coup on n'arrive pas à être attentif pour le moment qu'on passe avec le Seigneur. Et mon père avait pris l'habitude de noter sur un bout de papier, j'ai ça à faire, ça, 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 ça. Voilà, je m'en occupe plus. Et maintenant, je m'occupe du Seigneur. Et je suis attentif, voilà. Je dépose mes fardeaux, je ne les porte plus, et j'écoute le Seigneur. Et puis enfin, il y a ce quatrième cœur qui, lui, bien sûr, est là, ouvert. Hein. Ça peut correspondre à des périodes de notre vie. Ce n'est pas toujours comme ça. Hein. L'idéal, c'est que ce soit toujours comme ça. Mais parfois, c'est des périodes. C'était un moment et on l'a perdu. Il faut peut-être y revenir. Hein. Que notre cœur soit de la bonne terre. Voilà. Je viens du Nord, là. C'est magnifique. Hein. Ils ont moins de soleil. Je ne vais pas dire pas de soleil. Hein. Ils ont du soleil. Mais en tout cas... ils ont une terre qui est grasse, riche, elle est là, on la voit, la couleur, là, tout pousse dans cette terre. Et notre cœur doit être comme ça, cette bonne terre où la semence, elle est en surface, mais elle va pousser. Et elle va vraiment creuser ses racines. Jacques dit que celui-là, se mettant à l'œuvre, mettant en pratique, sera heureux dans son activité. Parce que l'obéissance est quelque chose qui libère. La chair nous fait croire à autre chose, le diable nous fait croire à autre chose, mais l'obéissance est quelque chose qui nous libère. Pouvoir faire ce que Dieu dit, mais ça nous rend libre, vraiment, et heureux. Quand on est libre, on est heureux. Et le chrétien heureux, c'est seulement celui qui met en pratique. Il écoute, il comprend, il obéit, il est heureux de voir Dieu dans sa vie. Alors il ne faut pas... il ne faut pas essayer de raisonner, mettre des faux raisonnements, comme dit la parole, et puis... ne pas faire ce que Dieu dit. Il faut faire ce que Dieu dit, tout simplement. Et j'aimerais vous laisser une dernière citation. Le premier devoir de chaque âme n'est pas de trouver sa liberté, mais son maître. Et je trouve ça beau parce que on a tendance à vouloir la liberté. Hein, et on est leurré, en fait. On a l'impression que la liberté, elle est quelque part. Mais elle n'est pas là. La liberté, c'est de trouver son maître. et d'être au pied de son maître et d'écouter son maître. Et là, on est libre. Libre vraiment de tout ce qui nous a servi dans pseudo-liberté d'à côté. Trouver Jésus-Christ.